totémique Rebecca Manzoni. Et pour ce matin, Rebecca, vous avez rencontré un auteur, musicien, rappeur. Il a publié son premier album il y a 10 ans pile. C'est Giorgio.
Et vous faites quoi demain soir pour la fête de la musique, Ali?
Je serai sûrement dans la rue à écouter France Inter ou dans mon lit à... je ne sais pas.
Dans votre lit, j'imagine, parce qu'en arrivant à 3h du mat, pour la matinale de dimanche, c'est pas trop le moment de faire la fiesta quand même.
Non.
Giorgio, lui, il sera à l'Olympia et sur France Inter avec ses rimes et son rap.
Je pense que je cite une référence littéraire ou pas, pour les personnes qui m'écoutent, ça change rien. Ça va changer quelque chose pour les personnes qui n'aiment pas forcément le rap. Et moi, ça, c'est quelque chose que je déteste, parce que j'ai pas envie de montrer patte blanche, parce que ça peut paraître comme « Non mais en fait, moi aussi j'ai les mêmes références que vous, moi aussi je connais ça, vous pouvez écouter ma musique. » J'ai pas envie de me justifier de bien écrire ou de faire de la bonne musique à des personnes qui sont fermées d'esprit, c'est pas pour eux.
Une échappée avec Giorgio, rappeur, c'est totémique jusqu'à la prochaine heure. Ans, un visage de gosse et l'expérience d'un ancien avec déjà 5 albums derrière lui. Georges Édouard Nicolo, dit Giorgio, a déjà passé plus de la moitié de sa vie à rapper et arpenter les scènes. Celle de l'Olympia pour la fête de la musique d'Inter demain soir, celle de l'Adidas Arena le 31 janvier 2026. Une discographie qui se déploie sur une décennie, 2015-2025, soit la chronique d'une jeunesse avec une lucidité bravache et sans biceps plein les manches. Dans l'un de ses textes, intitulé « La Jamaïque », Giorgio rappe « Le roi des cons avait déjà lu Le prince de Machiavel. Manipulation, esclavage moderne, des dominés et des dominants, ahurissants, ils n'ont rien rénové. Ils ont juste retapé la peinture du bâtiment, tout en surface, comme le logo d'une marque de luxe, écrit sur ton sweat blanc. Qu'est-ce que ça dit de toi? Sûrement pas grand-chose. On sait tous faire semblant. » Rendez-vous dans les locaux du label de Giorgio. Il déploie son mètre 90. Le café est prêt, le micro ouvert. Et ce sommaire est fini.
Totémique. Rebecca Manzoni sur France Inter.
Dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es. C'est une des possibilités pour un portrait, pour celui de Giorgio. J'avais plusieurs sons en poche avec lesquels j'étais quasi sûre de toucher juste. Par exemple, j'avais ça.
Jesus died for somebody's sins, but not mine.
Gloria par Patti Smith, année 1975, et j'avais aussi ça.
J'pète les plombs, putain j'pète les plombs, putain j'pète les plombs, mais j'pète les plombs.
J'pète les plombs de This is la peste en l'an 2000, et finalement, Giorgio a choisi ceci.
Mais bien sûr.
Il voulait du Eric Satie. J'ai donc opté pour l'un de ses tubes avec les Gymnopédies numéro 1.
J'ai pas envie de dire de bêtises et qu'on me reprenne, mais il écrivait beaucoup de notes, mais aussi des émotions sur ses partitions, de comment ça devait être perçu, etc. Et en fait, c'est...
Comme des didascalies, de dire, tiens, ouais. C'était pas seulement forte, piano ou quoi?
Ouais, c'est ça, exactement. Presque un peu, ouais, style, là, faudrait presque être en colère ou penser à ça, ou des choses très précises comme ça. Et aussi, il voulait que sa musique soit accessible. Et je trouve que c'est un truc que j'aime énormément en musique, même quand je fais des morceaux à moi. Je bosse beaucoup avec un producteur qui s'appelle Lucci. On fait presque tout à deux depuis quelques années maintenant. Et parfois, on enregistre des guitares et je lui dis, mais en fait, cette guitare, il faut que ça soit juste 4 accords que tout le monde peut reprendre en sachant jouer de la guitare depuis 1 an et demi. Et c'est tout. Ça n'a pas besoin d'être hyper technique. Il faut juste que ça soit simple et beau. Et Eric Satie, je trouve qu'il arrive justement à faire ça. Des morceaux qu'on peut rapidement apprendre une fois qu'on sait jouer d'un instrument. Mais il n'y a pas besoin d'être un virtuose. C'est accessible et c'est en même temps très beau. Et pour moi, c'est toute la puissance de la musique. Et puis...
Vous êtes punk, en fait.
Un peu, ouais.
Bah non, mais l'idée du punk, c'était aussi
ben
ça.
Ouais, c'est ça, ouais, ouais, carrément.
Faire avec ce qu'on a, quoi.
Ouais,
on sait pas jouer de la guitare, c'est pas grave.
Et même moi, par exemple, j'ai appris à jouer de la guitare. Honnêtement, je sais pas lire la musique. Et peut-être qu'un jour, je prendrai des cours de solfège, mais en tout cas, c'est pas prévu. Et j'ai appris à lire sur YouTube. Et je trouve que Internet, justement, ça rend accessible un instrument de musique, etc., où on peut apprendre de soi-même, pas forcément en étant très scolaire, quoi. Et ça, je trouve ça hyper cool.
Je relis mes fiches. Giorgio est né en 1993, l'année où la Peugeot 306 est commercialisée, l'année où Jurassic Park sort au cinéma, l'année où Johnny fête ses 50 ans au Stade de France. Mais grandir dans les années 90 en écoutant du rap, c'est avoir la culture du sample dans l'oreille. Retrouver dans un morceau l'extrait d'un autre, parfois beaucoup plus ancien. Et Giorgio a commencé comme ça, en utilisant par exemple Intimate Friends, chanson d'Eddie Kendrix. C'était en 1977. Sept ans plus tard, en 2014, il reprend le même motif. Et Giorgio y rappe un texte qui s'intitule « La tour de Babel ».
On aimerait bien s'épanouir en intérim, penser à rien. Pédaler sur un Vélib, tu sais où je me vois, près du canal Saint-Martin, dans un parc. À m'étaler sur la belle vie, ma foi, c'est pas tout rose. Hier, j'étais au parloir, ça s'efface pas de ma tête. Mon pote se rassurait, il me parlait du destin du prince de Machiavel. Il arrivait pas à s'empêcher de pleurer, me dit que tous les skins, il m'a demandé est-ce possible de faire marche arrière. Et c'est pas facile quand tu sors pas de ta tanière. Paris est mon asile, y a pas la mer, mais des cascades de Jack Daniel's. Faut chercher un sens à la vie dans la tour de Babel. Tu cours à ta perte, retrouver ton amour dans la foule et la guerre. Choisir ses potes et ses armes, prendre ses clopes et des claques, sortir dehors et c'est le drame.
Le sample, on peut réutiliser des musiques qui viennent de styles entre guillemets presque opposés à ce qu'on peut faire actuellement et les incorporer dans notre musique, etc. Et moi, honnêtement, j'adore la culture du sample. C'est quelque chose que j'aime énormément parce que je trouve que ça donne du grain, je trouve que ça donne un cachet, que ça donne une particularité à la musique que j'aime beaucoup. Et même quand j'écoute de la musique aujourd'hui où je peux retrouver des samples, quand je sens que c'est un sample, j'aime trop chercher d'où il vient, ça me fait découvrir des styles de musique, après j'écoute, je me dis « ah ouais, c'est trop bien », etc. Et c'est vrai que dans mes albums publiés aujourd'hui, il y a très très peu de samples, parce que pour des histoires de droits d'auteur où c'est compliqué, etc., quand c'est commercialisé. Et moi, j'ai découvert plein de choses grâce aux samples, en fait. Parce que de base, la musique que j'aime le plus, c'est le rap, mais ça m'a ouvert justement sur plein d'autres styles différents où je me suis dit « ah ouais, en fait, ça, c'est samplé de ça ». Et après, j'écoute et je découvre et j'aime aussi, quoi.
Est-ce que vous avez pris toujours plaisir à écrire ?
C'est-à-dire que quand j'ai commencé le rap, moi, ce que je voulais, c'était rapper et écrire, c'était plus un fardeau. Mais si on avait écrit mes textes pour moi, ça aurait été OK, quoi. Parce que moi, ce que je voulais, c'était rapper et être un rappeur. Parce que c'était avant même que vraiment les mots me touchent. Mais en fait, j'étais si jeune aussi, 13-14 ans. Et après, très vite, vers... Franchement, dès mes 15 ans, c'était incroyable pour moi d'écrire. Être le plus entier sur ce que je ressentais, ce que j'avais envie de dire, comment j'avais envie de parler, etc.
Est-ce que vous vous êtes dit, ça va marcher ?
Alors, c'est un peu étrange. En fait, il y a un côté de moi où je ne me suis pas laissé d'autre choix que ça va marcher. Dans le sens où j'aimais tellement ça, je me suis tellement conditionné à...
Il y avait pas de plan
B. Réussir que je ne me suis pas posé la question de est-ce que ça va marcher ou pas, il n'y a pas de plan B. En fait, c'est juste ça. C'est ça que je veux faire, c'est ça que je dois faire, c'est ça que je vais faire. C'est tout. Et en même temps, quand j'ai commencé, ça me paraissait impossible. Je me disais, pourquoi moi, en fait ? Pourquoi moi ? On en rêve, mais on n'imagine pas que c'est possible. Et en même temps, je ne me suis pas laissé d'autre choix. Donc, c'était très particulier, quoi, entre les deux.
Alors, est-ce qu'ils ont suivi votre ascension, vos parents ?
Oui. Franchement, carrément.
Ils l'ont suivi de quelle façon ?
Ils étaient là à chaque concert. Ma mère, elle est déjà venue sur des dates, sur des premières dates de tournée pour voir le premier concert d'un show en voiture, etc. Donc, mon père, parfois, il y avait des interviews qui sortaient et il m'apprenait que l'interview était sortie avant moi. Je savais même pas parce que voilà, il savait tout.
Il était hyper attentif.
Ouais. Et ma mère, pareil. La semaine dernière, on était ensemble, on était en voiture. Je lui faisais écouter des morceaux que je fais comme ça pour la suite, etc. En lui disant, oh, t'en penses quoi de ça et tout. Elle me donne son avis. Après, voilà, je mets l'avis de ma mère. Je sais ce qu'elle aime et je sais ce qu'elle aime pas de moi. Donc après, il vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, je l'écoute quand même toujours.
Qu'est-ce qu'elle aime de vous, votre mère?
En fait, elle aime vrai.
Enfin, je parle du rap. Hein.
Ouais, bien sûr. Mais en fait, je ne saurais pas expliquer. Mais en fait, c'est plus quand elle a l'impression, elle me dit « Ah, mais ça, tu l'as déjà dit. Non, mais ça, tu l'as déjà dit 100 fois. Faut que t'arrêtes. Parle-nous d'autre chose. » Elle va plus me faire des critiques comme ça. En fait, ma mère, c'est plus facile de savoir ce qu'elle aime pas que ce qu'elle aime. Parce qu'elle aime bien critiquer. Mais toujours une critique constructive quand même. Pas juste pour dire c'est pas bien, etc. Elle explique pourquoi, mais elle est très critique quand même.
C'est un récit d'enfance, la sienne et celle de son petit frère. Ce morceau de Giorgio s'intitule Enfant sauvage.
Ouais, tu connais les accords du piano, c'est bon ? Vas-y.
De la pluie tous les ans comme à Liverpool. Je suis fier de mes actions quand ma mère approuve. Moi qui étant désobéi. Je sais que chaque année elle me redécouvre. Pas de souvenirs dans le journal intime. Tout dans la tête, y'a pas de magie. Ici faut faire deux fois plus d'efforts. Comme un athlète paralympique. Je crois pas au hasard mais au timing. Je crois en Dieu, je crois en toi. Je crois en l'amour, je crois en moi. En mon libre arbitre. Airpod 2h du matin, pareil sous mes semelles. Je rejoins mes potes, on parle de Montéo, de se faire la courte échelle et bien de finir au top. Enfants sauvages, nous étions que des enfants sauvages. Nous étions. T'es là, tu vis comme si on était tous au complet. Comme si rien n'avait changé, alors rien n'a changé. Parce qu'on a encore faim du soleil, parce qu'on dort toujours mal. Qu'on veut toujours des voyages, qu'on fraude le métro comme des enfants sauvages. Je réentends le vent entrecoupant nos voix. Quand on chantait sur nos vélos, à fond dans nos rêves, difficile de prendre du recul. Comme l'acre sur mon épaule, des cartouches sur le sol, des oiseaux qui s'envolent. Drôle de rapport avec la violence, fasciné par les armes, la nature gagnera. Toujours sur notre arrogance. Enfants sauvages. Nous étions que des enfants sauvages. Nous étions torse nu dans la ville en plein été. Accrochés à nos rêves de mômes, à l'idée de tout faire péter. Du sang sur nous comme sur le ciment ukrainien. Hormis tout après-demain. Parle pas de style baudelairien. Non là c'est la vraie vie. Celle qui mérite d'être vécue. Avec ses excès et ses garde-fous. Loin de nous, l'idée d'être comme les autres. De finir à genoux, c'est nos codes qu'on bafoue. Pour ça qu'il y a le feu en bas de chez toi. J'aimerais moins de venin dans mon corps. Et plus de sagesse comme Athéna. Enfant sauvage. Nous étions que les enfants sauvages.
Giorgio,
rappeur,
Rebecca Manzoni, c'est Totémique sur France Inter.
On s'est tutoyé tout de suite, mais quand le micro fut ouvert, j'ai dit.
Vous en pensez quoi, vous, qu'on se vous voit à la radio ?
Pour moi, c'est OK de se vous voyez, parce que quand on ne connaît pas forcément quelqu'un, c'est une formule de politesse. Maintenant, moi, je ne suis pas forcément très attaché au vouvoiement, personnellement, parce que je trouve que ça met direct une distance et une barrière entre les personnes. Mais cela dit, ça paraît peut-être plus professionnel. Et j'ai l'impression que ça vient aussi d'un monde aussi très bourgeois, en tout cas dans mon imaginaire à moi, où certaines familles bourgeoises peuvent se vouvoyer dans la même famille, etc. Alors que je trouve que le tutoiement, ça met tout le monde sur un même pied d'égalité. Et je préfère.
Alors que l'idée dans un texte, l'ambition, c'est de créer de la proximité.
Oui, tout à fait. Pour moi, c'est comme ça qu'un texte fonctionne, c'est quand on se sent au plus proche de la personne qui l'a écrite. Moi, je sais qu'en tant qu'auditeur, parce que je suis avant tout un fan de rap avant d'être un rappeur, Et ce qui m'a énormément touché dans le rap, c'est de me dire, mais comment il arrive à mettre des mots sur ce que je ressens, alors que moi, j'arrive pas à le dire, j'arrive pas à le formuler, mais en fait, ce qu'il vient de m'expliquer, ou ce qu'il vient de ressentir, ou ce qu'il vient de dire, c'est ce que je vis, c'est ce que je ressens, c'est ce que je pense, mais j'arrivais pas à le formuler, je savais pas mettre des mots dessus, et là, c'est fait. Et du coup, en fait, d'un coup, le texte nous appartient à nous aussi. Et pour moi, je trouve que c'est la force principale d'un texte, c'est quand on arrive à se dire, mais comment il sait, presque au rythme auquel je respire, quoi.
Un des morceaux qui sait, un des morceaux qui raconte comment beaucoup de Français respirent, c'est celui-ci. Le titre, Pour ceux, de la Mafia Quin Free, sorti en 2003.
Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus, qui savent, même quand les plus grosses à marcher dessus. Pour nos sœurs qui seront les mères de demain, wesh wesh cousin, Mafia Quin Free, pour les calouches, les harbouches, les manouches, hors galouches. Hardcore même quand ça galoche, pour les tas sociaux qui font des fautes sur les murs, qui ont des lacunes. Pour les Touaregs, les pirates du bitume, j'en plus Chico sur le côté, qui boite balafré avec un œil qui se bat en couille, toujours devoir qu'il y a un bruit pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus, qui se tapent, même quand on est plus quoi ça marchait dessus.
Ouais, c'est un hymne du rap français incroyable. Même le clip, il est hyper important, en fait, finalement. C'est un des premiers clips, en tout cas moi, dans mes souvenirs, où on voit vraiment... la banlieue parisienne comme ça, justement avec plein de monde, où ça représente son quartier. C'est en plus dans la Mafia Quin Free, il y a plein d'identités différentes, que ça soit par exemple Rof ou Rimka ou Carlito. C'est des mecs qui rappent pas du tout de la même manière, qui ont des chants lexicaux qui sont différents, mais je sais pas, c'est un morceau qui est hyper galvanisant, que j'ai écouté toute ma vie et que j'écoute encore. Même le morceau, il commence le premier couplet dans l'urne, un big up aux jeunes des cités HLM et une autre pour les jeunes au bled. Forcément, moi, j'ai grandi en HLM. Plein de fois, j'ai des potes qui partent en vacances, ils disaient « ouais, on va au bled », etc., que ça allait en Afrique, au Portugal. Moi, je suis d'origine antillaise, mais j'ai découvert les Antilles très, très tard, à 24 ans. Du coup, ça a toujours été un rêve d'y aller quand j'étais jeune, etc. Parce que je savais que c'était mon grand-père qui avait vécu là-bas, que du coup, ma mère est métisse, etc. Donc en fait, rien que ça, dès le début du morceau, je me sens représenté.
Cette idée de l'identification, c'est aussi l'ambition que vous poursuivez en écrivant vous ? C'est-à-dire que d'autres puissent aussi s'identifier ?
Ouais, j'aimerais bien. En tout cas, c'est ce que je fais. Et pour ça, il faut être le plus... personnel possible, parce que paradoxalement, plus on est personnel et proche de soi, plus en fait des gens peuvent se retrouver, parce que on se retrouve dans une petite phrase, dans quelque chose de très très proche, où on dit ah mais moi aussi, ou alors ah mais mon pote aussi, et du coup ça fait quand même écho à notre vie à nous, ou à celle de qu'on côtoie tous les jours. Et donc ouais, c'est important pour moi, c'est le sentiment le plus fort qu'on peut créer en musique, le sentiment d'identification.
L'amour du rap, ça a commencé par ça?
En fait, mon tout premier amour du rap, je pense que c'est aussi il est très physique aussi dans ce que ça dégageait, parce que j'écoutais beaucoup de rap américain au départ, quand je suis arrivé dans le rap. Et donc, c'était plus une attitude, les flows, etc. Mais je n'étais pas attaché aux paroles. Et j'écoutais ça très jeune. Hein, quand je suis tombé amoureux du rap, j'avais 13-14 ans. Mais en fait, très vite, je suis arrivé dans le rap français. Et là, oui, les textes m'ont touché. Parce que déjà, j'avais l'impression que ça parlait d'un quotidien qui était proche du mien. Et quand bien même ce n'était pas le cas, ça parlait de fantasmes ou de rêves que moi-même, je pouvais avoir d'envie d'argent, d'envie de force, de puissance, de choses comme ça, quoi.
Mais alors, avant même de comprendre les textes, c'était quoi cette attitude du rap américain qui vous séduisait ?
Je pense que c'était un truc un petit peu proche du super-héros, de toute puissance, avec de l'arrogance. Et puis, comment j'ai découvert le rap, c'est à travers le basket, qui était mon sport. Et en fait, il y avait aussi ce truc de les voir mettre des maillots de basket, de s'habiller, d'une mode qui me représentait, qui représentait mes potes aussi. Tout ça, en fait, tout cet univers-là me parlait. C'était presque plus l'univers. Et du coup, la musique venait avec que les textes, et puis après les textes.
Mais quand vous parlez de ce rêve de puissance, d'arrogance, etc., ça, vous l'évoquez dans vos textes d'aujourd'hui et vous revenez dessus.
Parce que tout au long de votre discographie, ce que vos textes racontent, c'est comme vous avez commencé hyper jeune, 14, oui. 15 ans, aujourd'hui vous avez quoi, 30 ?
32.
32. Ces textes, ils racontent une mue. Ils racontent aussi un recul par rapport à ses envies de d'être un super-héros, quoi.
Ouais. Il y a, dans cette envie de super-héros, il y a aussi une construction sociétale, en fait, par rapport aussi à la société, des valeurs qu'elle nous a inculquées, de ce qu'on pensait forcément être le maximum, la suprématie du bien. Et en fait, au fur et à mesure, d'autant plus ces dernières années, je me rends compte que ce n'est pas du tout le cas. C'est aussi très masculiniste, presque dangereux. Ça laisse peu de place aussi, vouloir être super-héros, hyper fort aux émotions. Et moi-même, j'ai du mal encore avec ça. Et je sais qu'il n'y a que dans ma musique que j'arrive à vraiment me livrer. Mais ce n'est pas quelque chose qui est facile pour moi dans des conversations, que ce soit avec des amis, avec mes proches, etc. Même ma famille, parce que j'ai pas grandi dans ce modèle-là, je me suis pas construit non plus avec des personnalités qui évoquaient ça, etc. Et donc, c'est aussi un regard que j'essaie de changer aujourd'hui, même dans mes textes, d'avoir du recul là-dessus, de m'en rendre compte, de pouvoir en parler, et d'essayer de faire bouger les choses à mon humble échelle. Et même le fait d'en parler, ça me positionne là-dedans et ça m'aide à faire un petit peu le changement tout doucement, quoi.
C'est dur ?
Oui, quand même. C'est pas facile. Après, moi, je me considère vraiment chanceux d'avoir la musique pour le faire. Parce que la musique, c'est vraiment mon espace pour me livrer. C'est facile parce que j'ai une armure qui est mon flow, qui est ma voix, la musique en elle-même.
Vous dites « je me suis pas construit comme ça ». Mais alors, la construction, elle s'est faite avec quel modèle ?
Moi, c'était beaucoup à travers le sport, la performance. Et c'est ma meilleure, une grande qualité chez moi et aussi un grand défaut. Mais moi, je suis en compétition avec moi-même tout le temps et je suis en compétition presque avec tout dans ma vie. Et
c'est vous devez être super fatigué.
Fatigué, oui et non, parce que ça peut être fatigant, mais ça peut être aussi un moteur. Et donc, ça, c'est ça aussi qui me pousse. Mais c'est ça qui me pousse aussi à être aussi productif dans la musique, de rien lâcher, de me remettre tout le temps en question, d'essayer d'avancer, d'essayer de faire mieux. Mais il n'y a pas vraiment de fin à ça. Et donc, il y a tout un côté hyper positif qui m'aide aussi à développer de la confiance en moi, une vraie éthique du travail, de la discipline. Et à côté de ça, c'est vrai qu'il y a, dans ce modèle-là de la performance, de la compétitivité, il y a aussi, malheureusement, aussi l'idée d'être plus fort que l'adversaire, donc un peu d'écraser aussi l'autre, qui n'est pas forcément...
L'esprit de compète, d'être compétitif, c'est aussi justement un modèle social.
Tout à fait. C'est pour ça que je reviens là-dessus. C'est aussi un modèle social. Et pourtant, c'est presque un peu les valeurs du capitalisme qui ne sont pas quelque chose que je défends et que j'aime non plus. Mais après, je pense qu'on est tout plein de paradoxes. Et c'est en ça que parfois, je m'en rends compte. Et j'essaie un peu d'évoluer là-dessus. Mais en même temps, c'est comme ça que j'ai fait mon fuel pendant presque toute ma vie. Parce que j'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours aimé la compétition. Et même dans le rap, il y a un truc un peu sportif, tellement il y a d'albums qui sortent, tellement il y a de rappeurs, etc. Et qu'il faut rester un peu à sa place. Et donc, ouais, c'est un peu ça le modèle dans lequel je me suis construit, que j'essaie de, au fur et à mesure, déconstruire en gardant que le meilleur, en effaçant le moins bon, quoi.
Au-delà de la sincérité et de la justesse des mots qui vous correspondent le plus possible, dans la forme d'écriture, qu'est-ce que vous recherchez ?
Dans la forme d'écriture, je cherche à faire un peu des images. Que ce que j'arrive à dire, on arrive à le visualiser. C'est ça que je recherche le plus. Que ce soit dans des métaphores ou dans la manière de faire ma phrase, qu'on arrive tout de suite à se mettre une image sur ce que je suis en train de raconter.
Qu'on se fasse son film en écoutant, en fait.
Ouais, tout à fait.
Nouveau morceau de Giorgio avec Némir, Fleur, c'est le titre.
Si je fais un move pour toi, c'est de bon cœur, t'as pas à t'en rappeler. Une fois dans l'année, je déprime en profondeur, je reste en apnée. Je remonte à la surface, quoi qu'il se passe. J'ai mes deux bras, deux jambes, c'est pas si naze. Rien à faire de l'argent des autres, je m'émerveille devant des battements d'ailes. Y'a des espèces qui se font rares comme des crashs dans le ciel. Pensez pour moi-même comme Marc Aurèle. J'espère passer l'âge du Christ, éviter la crise de la quarantaine. Déjà petit, on m'a dit contrôle tes pulsions, ta colère. C'est la pluie qui fait pousser les fleurs, pas le tonnerre. Paraît que l'essentiel est invisible pour les yeux. Je pense à mes ancêtres sous une terre poussiéreuse. C'est nous les plus haineux. Pas de je t'aime sans une insulte. Comme ça on reste dans notre confort. Et au final ça nous rassure. Mais je veux plus de ça. Et quoi qu'il arrive, je me rapproche des étoiles quand je vise la lune.
J'ai roulé toute la nuit, je crois que je perds le contact, hey. Même en changeant de vie, j'ai fait le même constat, hey. On fait pas la paix avec tes.
Mes failles et je deviens menaçant. Nous on fait que d'entendre que c'était mieux avant. Il faudrait quoi qu'on s'arrête de vivre. On fait déjà comme on peut. Les meilleurs partent en premier, on fait sans eux. Parfois je critique les autres et je me sens aussi lâche. J'ai des potes nés après le premier album de Gorillaz. Ça change quoi au final, ça change rien, c'est que des chiffres. Si t'es dans un bad mood, dis-toi que c'est que des cycles. Je donne mon pardon à tous, mais y'a pas tout qui se pardonne. Bousillé par le rap, les OGM et l'uranium. Je connais peu de missions, aussi dur qu'élever un homme. Regarde comment on se comporte, on est moins droit que le métronome. Vu sur les neiges éternelles pour me rappeler qu'on l'est pas. Millionnaire seulement en français CFA et j'ai le choix. Contourner les obstacles ou les affronter. Là je suis perdu dans mes pensées.
J'ai roulé toute la nuit, je crois que je perds le contact, hey. Même en changeant de vie, j'ai fait le même constat, hey. On fait pas la paix avec des fleurs. J'aime jouer avec mes.
« 32 ans, 5 albums, un sixième à venir », du Ordio rappeur et dont tout est mic jusqu'à 10h, avec des auteurs qu'il convoque dans ses textes, Gary, Artaud ou Hemingway. Mais pour ce matin, j'ai choisi de lui faire écouter Laurent Mauvignier. En 2024, Laurent Mauvignier était interviewé par Sylvie Tanette pour l'émission « À voix nue » sur France Culture. Et dans le tout premier épisode de la série, Laurent Mauvignier raconte sa découverte de l'écriture et de la littérature.
Il se trouve qu'un jour d'hospitalisation, on m'a offert un cahier et un livre et que j'ai eu l'impression que là, d'un seul coup, il y avait un autre monde, quoi. Qu'il y avait la possibilité d'un autre monde. Mais vraiment, une sensation vraiment, justement, d'un monde parallèle où les êtres pouvaient agir sur leur vie, en fait. Puis, ça n'existait tellement pas. Alors, c'était drôle parce qu'à la fois, ça n'existait pas du tout. Il n'y avait pas d'écriture, il n'y avait pas de livre, il n'y avait rien. Mais en même temps, tous les noms des rues autour de chez moi, c'était rue Alfred de Musset, rue Victor Hugo. Et quand j'ai commencé à avoir un désir d'écriture vers 9 ans, ce qui m'a vite quand même un petit peu calmé, on va dire, c'est que justement, comme je voyais ces noms de rues, je me disais que c'était, ben, fallait être mort au 19e siècle pour pouvoir écrire et qu'il n'y avait pas de présent possible de ça. Parce que mon monde à moi, il était tellement, j'allais dire moche, en fait, quoi. Tellement moche. Tellement, qu'il n'y a rien à dire, en fait. Ça ne pourra jamais entrer dans la littérature, c'était noble. C'était une idée plus grande que soi, quoi. Et j'avais l'impression, moi, de vivre dans un monde qui était plus petit que nous, en fait. Plus petit que les gens.
Je comprends totalement cette idée d'avoir trouvé quelque chose qu'il n'osait finalement même pas rechercher à travers les mots, dans son cas, de la littérature. Et en fait, je pourrais presque dire la même chose de la musique. Hein. Ça m'a ouvert un monde. Et quand je dis ça, je ne parle pas en tant que rappeur ou en tant qu'artiste. Je parle aussi en tant que fan de musique, parce que j'écoute plein de styles de musique différents. Beaucoup de jazz, beaucoup de rock anglais, même en ce moment, du flamenco un peu, que je découvre grâce à ma copine. Et du coup, j'écoute vraiment énormément de styles de musique différents et c'est tout un monde. Et à chaque fois, on plonge dans d'autres univers, dans plein de choses. C'est aussi pour ça que je parle beaucoup de littérature, que j'ai déjà cité des auteurs dans des morceaux à moi, etc. Mais la musique a quelque chose de plus accessible que la littérature à première vue. Et je milite pour ça, pour que l'art soit accessible à tous. Et moi, je me rends compte que même si mes parents, quand j'avais 15 ans, 14 ans, ils n'avaient pas d'argent, mais ils avaient une richesse culturelle énorme. Et c'est même presque plus important, je trouve.
Cette richesse culturelle de vos parents, c'est qu'ils vous ont encouragé à lire, par exemple ?
Non, pas spécialement à lire, mais il y avait beaucoup, beaucoup de musique chez moi. Ma mère, elle adorait la musique. Ma mère, par exemple, elle a vu 3 fois en concert Bob Marley. Donc, elle écoute plein de trucs. Ma mère, elle a toujours été hyper ouverte d'esprit. Et elle écoutait plein de choses. Mon père aussi. Moi, c'est mon père qui, quand j'étais jeune, qui m'a fait découvrir, par exemple, des groupes comme Nirvana ou les Sex Pistols, en me racontant des anecdotes, des choses comme ça. Il m'avait offert aussi le CD. À l'époque, c'était quand il y avait juste un single de This Is, Je pète les plombs. Et il y a toujours eu énormément de musique, beaucoup de styles de musique différents. Et donc déjà, ils m'ont encouragé quand j'ai voulu faire du rap. Enfin, ils avaient juste un peu peur parce que à l'époque, le rap, c'était que des clichés. C'est une musique de voyous, etc. Donc, ils flippaient un peu de ça. En plus, moi, j'étais assez turbulent, etc. Quoi, j'étais pas le plus sage. Jamais, j'ai toujours parcours scolaire un peu chaotique et tout. Donc, ça les rassurait pas forcément. Mais en tout cas, l'idée de musique, ils étaient OK pour ça. Et ça, c'était une chance. Et puis, même de, je me souviens quand j'ai arrêté les cours hyper jeunes et mes parents, ils m'avaient dit OK, mais alors ton rap, tu le fais à fond, quoi.
Et quand vous disiez, parce que effectivement, vos textes parfois ils comptent des références littéraires. Mayakovsky, enfin c'est le premier auquel je pense là.
Ouais, ouais.
Pourquoi vous faites ça?
Je vais parler d'un sportif comme une référence un petit peu, et je peux faire la même chose en fait avec un écrivain parce que c'est une autre référence pour moi. Il y en a pas une qui est plus importante que l'autre. C'est juste deux références à moi, comme je lis aussi pas mal. Mais c'est vrai quand même quand je le fais avec la littérature, je me dis si j'arrive à intéresser ne serait-ce qu'une personne. Si j'éveille une curiosité et que ça lui permet de rentrer dans un nouveau monde comme ça a pu le faire pour moi, je me dis que c'est une victoire, quoi. Donc pourquoi s'en priver ?
Après, médiatiquement, ces références littéraires, elles sont à double tranchant. Non ? C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi l'idée qu'à partir du moment où vous citez une référence littéraire, votre rap ne va pas être écouté de la même façon.
Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, je pense que, encore une fois, c'était bien de préciser médiatiquement. Je pense que je cite une référence littéraire ou pas, pour les personnes qui m'écoutent, ça change rien. Ça va changer quelque chose pour les personnes qui n'aiment pas forcément le rap. Et moi, ça, c'est quelque chose que je déteste, parce que j'ai pas envie de montrer patte blanche, parce que ça peut paraître comme... non, mais en fait, moi aussi, j'ai les mêmes références que vous, moi aussi, je connais ça, vous pouvez écouter ma musique. J'ai pas envie de me justifier de bien écrire ou de faire de la bonne musique à des personnes qui sont fermées d'esprit ou qui ont déjà cette mentalité de se dire « Ah, ok, en fait, finalement, on peut écouter. » Parce que si ils sont déjà dans ce, entre guillemets, ce calcul, juste parce que j'ai cité ça, finalement, ça m'intéresse pas de leur parler, quoi. C'est pas pour eux. C'est pas comme ça que je pense, c'est pas mes valeurs, c'est pas mon fonctionnement. Et on le sait bien qu'il y a un mépris de classe... même des médias pour le rap en général. Mais même moi, je sais aussi que dans mon rap, je suis de ceux à qui on va donner le plus la parole parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de vulgarité, etc. dans mon rap. Mais en fait, ça raconte aussi quelque chose de social aussi, toute cette violence qui est racontée, qui existe dans le rap, mais parce qu'elle existe en France aussi.
Votre frère, votre petit frère, Anatole Edouard Nicolo,
ouais.
Il est romancier.
Oui.
Il a publié un livre qui s'intitule « À l'ombre des choses ».
En fait, il parle d'une France qu'on n'entend jamais, qui ne s'exprime pas, dont on ne parle pas forcément dans les médias, qu'on ne met pas forcément en avant parce que c'est une France moyenne, qui n'a pas forcément trop d'argent. Avec notre père, on a vécu un peu dans un squat, avec ma mère dans un foyer Sonacotra, puis en HLM. Et en fait, c'est des personnes à qui on ne donne jamais la parole, qui ne s'expriment pas trop, qui même dans l'art sont sous-représentés, parce qu'à part dans le rap ou même dans la littérature, il y a peu d'auteurs qui viennent de ces milieux-là. Mais il y en a quand même, comme par exemple Annie Ernaux ou Édouard Louis, mais il n'y en a pas tant. Et donc, il raconte aussi grandir là-dedans, et puis aussi grandir aussi par rapport à moi, qui a réussi quand même assez jeune, finalement, grâce au rap, grandir un peu dans le silence de la vie et puis dans le silence à côté de son frère aussi.
On passe à votre carte blanche ?
Allez. Alors pour ma carte blanche, j'ai pensé à un livre qui est le seul livre que je peux relire dans ma vie parce qu'il y a tellement de livres et j'ai tellement une soif un peu de culture, de connaissances. Je suis tellement curieux que je ne retourne jamais sur un livre que j'ai lu. Mais « Lettre à un jeune poète » de Rainer Maria Rilke, c'est un peu une encyclopédie hein, de la vie artistique pour moi, de l'écriture en tout cas, sur lequel on peut revenir. Et donc, c'est des lettres, pour mettre un peu de contexte, où il répond à un jeune poète, du coup. Et donc, toute la première partie du livre, on n'a que les lettres que Rilke envoie, sans avoir les réponses. Et je les trouve très belles. Et je voulais lire, en fait, la toute première lettre qui date du 17 février 1903. Il parle de l'intégrité qu'il faut avoir avec son art et ce qu'on va donner de nous-mêmes pour l'écriture. Et je trouve ça hyper juste pour être fier de ce qu'on peut faire. Vous me demandez si vos vers sont bons, et c'est moi que vous interrogez. Si vous avez auparavant demandé leur avis à d'autres gens, vous avez envoyé ces vers à des revues, vous les comparez à d'autres poèmes, et vous êtes inquiet lorsque certaines rédactions refusent vos essais. Puisque vous m'avez autorisé à vous donner quelques conseils, je vous prierai de cesser tout cela. Votre regard est tourné vers l'extérieur, et c'est d'abord cela que vous devriez désormais plus faire. Personne ne peut vous conseiller ni vous aider. Personne. Il n'existe qu'un seul moyen. Plongez en vous-même, recherchez la raison qui vous enjoint d'écrire, examinez si cette raison étend ses racines jusqu'aux plus extrêmes profondeurs de votre cœur. Répondez franchement à la question de savoir si vous seriez condamné à mourir au cas où il vous serait refusé d'écrire. Avant toute chose, demandez-vous, à l'heure la plus tranquille de votre nuit, est-il nécessaire que j'écrive ? Creusez en vous-même, en quête d'une réponse profonde. Et si elle devait être positive, si vous étiez fondé à répondre à cette question grave par un puissant et simple « je ne peux pas faire autrement », construisez alors votre existence en fonction de cette nécessité. On sait encore une fois le plonger en soi le plus profond, et on en revient après à créer quelque chose d'intime, de très proche, et à la proximité, à l'identification qui peut en découdre.
Et la boucle est bouclée.
Et la boucle est bouclée. Merci Rilke.
La toute dernière séquence de cette émission, c'est une séance photo.
Allez.
Avec un Polaroid. Je propose que ça vous embête d'aller sur le canapé d'en face.
Je vais remettre ma veste pour la photo.
Ok. Hop. En plus, il y a une photo avec le filet d'un but. Merde. Il y a un problème de fonctionnement. Je crois que mon Polaroid est mort, là.
Ah mince.
Ouais. Je peux le faire au portable ?
Ouais, bien sûr.
Voilà. On la regarde ?
Allez. Ouais, c'est parfait pour moi, c'est moi, voilà. Petit sourire, mais pas trop. Parfait. Du coup, je souris jamais sur les photos, mais on regarde mes photos de famille, c'est la même chose. Hein. Et pourtant, il n'y a pas d'image calculateur de la pop culture ou je sais pas quoi sur des photos de repas de Noël. Et moi, en fait, c'est pas un truc que j'aime énormément, en fait, l'image, très honnêtement. Je le fais parce que ça fait partie du truc et de tout le côté marketing et tout, mais je crois que si je pouvais faire de la musique sans forcément de pochette d'album, sans clip, sans quoi, je le ferais. Parce que moi, ce qui me plaît vraiment, c'est vraiment la musique. C'est vraiment faire du rap, chanter, entendre des accords de piano, de la guitare, un beat, etc. J'ai pas forcément, comme d'autres artistes, qui peuvent avoir une vision hyper à 360 de leur look, de leur image, d'avoir une esthétique très précise sur les clips, etc. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai forcément.
Merci, Giorgio.
Merci beaucoup à vous.
Giorgio sera à l'Olympia demain soir pour fêter la musique sur France Inter avec Clara Luciani, Yamé et Benjamin Biolay le 31 janvier 2026. Il sera à l'Adidas Arena avant une tournée dans toute la France, au moins jusqu'au printemps. Anaïs Reynard a réalisé cet épisode de Totémique avec Adèle Caglar ce matin. Perrine Malinge programme nos invités. Célestine Babinet a préparé l'émission. Et JB Audibert assure la programmation musicale. La semaine prochaine, rendez-vous en terrasse avec Adèle Exarchopoulos.